Avec Isaïe, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je l'invite à se joindre à moi. Et nous ouvrirons notre Bible à l'évangile de Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3. Et nous lirons des versets 2 à 6. Tout d'abord, le verset 2 qui nous dit ceci : Du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il disait : Faites-vous baptiser pour montrer que vous changez de vie, et Dieu pardonnera vos péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre : On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert : Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits.
À partir du verset 5, maintenant toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs.
Il est toujours bon de revenir sur ces personnages incontournables de la parole de Dieu, à savoir Jean le Baptiste. Car c'était d'une part le dernier des personnages, le dernier des thèmes de cette semaine de prière pour notre jeunesse, et que nous trouvons en ce choix judicieux la possibilité d'une édification pour le corps du Christ qui ce matin se réunit ici, à savoir l'Église. C'est intéressant de voir combien il y a eu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du christianisme, encore appelée histoire du salut, des hommes et des femmes, jeunes souvent, qui se sont engagés pour le Seigneur et qui ont réalisé pour lui de grandes choses. Et selon la Bible, il n'était pas de plus belles choses à faire que d'annoncer la première venue de Jésus. C'est là tout l'intérêt, toute la raison d'être de la mission prophétique de Jean le Baptiste. D'ailleurs, remarquez que ce personnage est capable de tout mettre sur la table. Déjà son âge. Votre avis, il a quel âge, cher jeune, Jean le Baptiste? Les jeunes, j'ai dit. Cher jeune, quel âge Jean-Baptiste?
Combien?
Joël, combien? 30, presque ça, 28. Mais je sais pas vous, quand j'imagine Jean-Baptiste, je l'imagine avec une barbe, des cheveux blancs, quelque part la projection de Dieu le Père sur terre. D'ailleurs, vous regardez que lorsque les films, chrétiens ou pas, mettent en scène ce personnage, c'est souvent ce type d'individu qu'il nous propose, et nous sommes déjà en décalage par rapport à la réalité. Jean le Baptiste était plus proche de votre âge que de celui de beaucoup qui sont ici. Son âge n'a pas été un handicap, bien au contraire. Mais il y avait en plus de cet âge une passion, une fougue. D'ailleurs, quand on lit certains passages qui nous livrent les mots de Jean le Baptiste, on s'aperçoit que malgré ses 28 ans, il était capable d'un certain toupet. Peut-être même d'une forme d'impolitesse. Mais il osait pour Dieu et pour annoncer la venue de Jésus, l'incarnation de Dieu sur terre. Vous savez que l'Église adventiste du septième jour a une perception du ministère de Jean le Baptiste très singulière et très appropriée. Cette Église pense qu'elle est l'incarnation communautaire de Jean le Baptiste pour annoncer quoi ? La deuxième venue de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le Baptiste aujourd'hui, Jean le Baptiste aujourd'hui, c'est Sylvia, c'est Gabriel, c'est Richie, c'est moi, c'est Daniel, c'est nous tous. Ce qui nous amène à nous poser une autre question pertinente, dérangeante aussi. Sommes-nous capables d'oser comme lui? J'ai beaucoup aimé hier l'intervention d'Olivier Maire, le pasteur Maire, qui était là pour conclure, du moins pour les temps en semaine, cette semaine de prière, et qui nous disait, et en face, qu'est-ce que nous disons en face? Et comprenons en face le monde qui est en dehors des murs de cette église. Avons-nous envie de dire au monde que Jésus revient bientôt? Car lorsque nous étudions les signes que Jésus lui-même nous donne dans sa parole, nous ne pouvons que constater qu'ils sont tous en train de se réaliser et que bientôt le Christ revient. Notre Église est-elle l'incarnation symbolique de Jean le Baptiste? J'ose espérer que oui. Mais je sais aussi que nous pouvons mieux faire, et que vous également, chers jeunes, puisque vous êtes part à part entière de l'Église, pouvez aussi mieux faire. Quels étaient donc les secrets de Jean le Baptiste pour qu'il puisse se sentir ainsi désireux d'annoncer la première venue de Jésus? La première réponse me semble être celle de l'universalisme. Et j'aimerais, pour illustrer cette piste, vous livrer un premier texte que nous trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, au verset 14, je le lirai. « Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, en toi et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. » Vous reconnaissez ici la bénédiction que Dieu fait à Abraham. Et lorsque nous nous arrêtons sur les termes de cette bénédiction, nous sommes surpris de voir d'une part la portée de la bénédiction. Ce ne sont pas les croyants ou que les croyants qui sont ici bénis. Ce ne sont pas les gens de l'époque d'Abraham qui sont ici bénis. Ce sont tous les habitants de la terre, depuis le premier jusqu'au dernier, en partant du début et en allant jusqu'à la fin. D'autre part, si je m'arrête sur les termes de cette bénédiction, je m'aperçois qu'ils entretiennent un rapport étroit avec Jésus-Christ et l'Esprit-Saint. Jésus-Christ tout d'abord. Comment? Par Abraham, lui-même inspiré de Dieu, la bénédiction va-t-elle être transmise? Par la descendance. C'est dans la descendance d'Abraham que se trouve la bénédiction de tous les hommes, de tous les temps. Et nous savons très bien ce que signifie cette descendance. Qui elle pointe, nous avons compris, Jésus-Christ. Ce qui veut dire que la bénédiction d'Abraham est une bénédiction pour tous les hommes de tous les temps en Jésus-Christ. Ce qui nous amène à penser que Jésus-Christ n'est pas que celui des églises. Ce n'est pas que le nôtre, nous qui l'avons accepté. Et nous avons bien fait, et qui avons signifié cette acceptation par le baptême. Le texte ne dit pas ça ici. Le texte nous dit qu'en Jésus-Christ, toutes les nations de la terre sont bénies. Voilà peut-être une première idée à accepter, à intégrer, pour pouvoir retrouver l'envie de dire aux autres que Jésus-Christ les intéresse aussi. D'ailleurs, il est assez facile de démontrer que Jésus bénit non seulement les croyants, mais tout le monde. Après tout, nous vivons tous. Si nous voulons aller transporter depuis l'Église vers l'extérieur le message de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est que les autres sont vivants et capables de l'accepter. Et s'ils sont vivants, c'est qu'ils détiennent la vie. Et s'ils la détiennent, c'est qu'ils sont en relation avec celui qui est porteur de la vie. créateur de la vie. Et je vous ramène au prologue de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, la parole a été faite chair, Jésus-Christ. C'est par elle que tout est advenu. D'ailleurs, non seulement nous les hommes, mais toute forme de création sur terre et bien au-delà. N'est-ce pas là la plus belle des bénédictions que cette vie, croyant ou pas, que nous détenons de Jésus le Créateur? Et je pourrais ainsi décliner d'autres formes de bénédiction. L'intelligence. Il y a de l'intelligence dans l'Église, il y a de l'intelligence à l'extérieur de l'Église. Je me souviens de ces paroles d'un frère de l'Église d'Angers, alors que j'étais pasteur là-bas, qui me témoignait toute la fascination qu'il avait lorsqu'il examinait, analysait l'organisation, les structures des grandes entreprises. C'était là son dada. Voilà un dada particulier, me direz-vous. Mais c'est vrai que lorsqu'on se penche sur ces sociétés commerciales, multinationales, planétaires aujourd'hui, nous devons reconnaître un certain génie dans l'organisation, dans la structure, la pertinence de ceux qui sont à la tête. Mais d'où vient tout cela? D'où vient cette intelligence? Si ce n'est de Dieu, n'est-ce pas là aussi la démonstration d'une forme de bénédiction? Je pourrais parler de la santé. Oui, les adventistes du septième jour sont peut-être et certainement en meilleure santé que le reste du monde parce qu'ils ont su de Dieu récupérer des enseignements dits sanitaires qui permettent, lorsqu'ils sont appliqués, de prolonger par exemple la durée de son existence. Et tout ceci est prouvé. Il y a même eu sur France 2, le journal télévisé de France 2, un reportage spécialement dédié à cela, une population adventiste californienne aux États-Unis qui vit plus longtemps que les autres. Mais j'en reviens à cette santé qui est peut-être plus présente dans nos murs, elle l'est aussi à l'extérieur. Et que je sache, tout le monde ne meurt pas de ceci ou de cela, d'une maladie ou d'une autre. Lorsque je regarde la santé que j'aurais tendance à universaliser aujourd'hui, je puis aussi me dire qu'elle est un reflet de celle que nous pouvons trouver chez Dieu. Dieu est un être parfait, il est un être en pleine santé. Si donc nous sommes en pleine santé, dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, nous sommes quelque part le reflet de cette santé, de cette harmonie, de ce fonctionnement corporel parfait qui se trouve d'abord en Dieu. Notre santé à nous n'est qu'un reflet de celle de Dieu. Il s'agit dès lors d'une bénédiction qui nous vient de lui lorsque nous sommes en pleine possession de nos moyens. Et je pourrais parler aussi de l'amour. J'ai toujours été frappé par l'amour maternel, à la fois parce que j'ai eu la chance d'en être couvert, mais comme beaucoup ici. Et je remarque que ce lien si particulier, si fort, qui unit une maman à son enfant, est un lien là aussi universel. Et allez dans quelque culture que ce soit, dans quelques pays que ce soit, vous retrouverez toujours, même s'il est malheureusement des exceptions, la force de ce lien. Mais d'où vient ce lien? D'où vient cet amour? Et c'est là que nous devons lire le fameux texte de Jean, 1 Jean 4, verset 8, qui n'aime pas, n'a pas découvert Dieu, car Dieu est amour. Et si une maman aime à ce point ses enfants, croyant ou pas, c'est qu'il y a quelque part Dieu en elle. Et si dès lors, par ce biais-là, Dieu se trouve en elle, nous parlons de bénédiction. Et l'amour, c'est aussi le Christ. Car le Christ est Dieu, et l'amour, c'est Dieu. Jean le Baptiste avait compris cet universalisme. Il avait compris que finalement, quels que soient les hommes, quelles que soient les cultures, qui que nous soyons, nous entretenons tous de près ou de loin un rapport avec Jésus-Christ et nous étions en cela tous bénis. Mais voyez-vous, cette bénédiction et progressive. Elle peut être ainsi, et elle peut être ainsi. Et c'est là que nous justifions notre rôle, notre fonction de témoin, d'envoyé. Nous devons dire au monde que ces bénédictions dont il n'a pas forcément conscience peuvent être démultipliées, peuvent être beaucoup plus fortes, avoir beaucoup plus d'impact dans la vie de tout cela, parce que nous allons porter une parole plus précise sur qui est Jésus-Christ et ce qu'il peut faire dans la vie de chaque homme. Je sais que ce n'est pas toujours évident aujourd'hui, surtout quand on est jeune, d'aller comme cela vers tous ceux que le Seigneur place en face de nous et de témoigner de notre foi. Voilà pourquoi j'aimerais vous livrer une histoire que j'ai eu la chance d'expérimenter puisqu'elle concerne mon frère. Mon frère avait à l'époque 12-13 ans et il était en, je ne sais plus, 5e ou 4e dans la classe où l'on est à cet âge-là. Et il y avait dans sa classe un certain nombre de camarades qui se posaient bien des questions à son propos, savez-vous pourquoi ? Parce qu'il ne le voyait jamais à l'école le samedi. Et qu'il y avait classe, comme aujourd'hui d'ailleurs encore, le samedi. Alors certains disaient qu'il était privilégié, puisqu'il avait une matinée de moins d'école que les autres. D'autres avaient eu plus ou moins écho qu'il y avait probablement du religieux derrière cet absentéisme toléré par, à cette époque en tout cas, le proviseur de l'établissement. Mais il y avait un grand point d'interrogation qui planait à l'égard de cette absence sabbatique. Et voilà qu'un jour, un des amis de mon frère lui dit « Mais enfin, pourquoi tu viens jamais le samedi ?» Et la parole de mon frère, surprenante, décalée, « Parce que Jésus revient !» Vous savez, dans ces dessins animés, quand vous voyez des fois les yeux qui sortent des orbites, on peut imaginer que dans l'esprit de Michel, puisqu'il s'appelle ainsi, cette parole a eu cet effet. Mais voyez-vous, ce Michel, il a été touché par cette aberration. Lui qui a 12-13 ans ne vient pas le samedi à l'école parce qu'il croit que Jésus revient. Mais sur quelle planète vit-il ? Mais l'impact avait été fait. Et le Michel va poser des questions, d'abord en se moquant, et puis en s'intéressant. Et au bout de 2-3 ans, il viendra même à l'église adventiste de Béziers. Et au bout de 5-6 ans, il prendra le baptême. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que vous êtes, nous sommes, des baptistes potentiels. Par une parole qui va nous paraître maladroite, décalée, honteuse, déplacée, peu importe ce qu'elle sera, mais par une parole, nous pouvons aider celui qui la reçoit à entrer dans plus de relations, c'est-à-dire plus de bénédictions qu'il n'en a déjà avec Jésus-Christ. Comprenons que Jésus appartient à tous et qu'il nous appartient par ce que nous connaissons de lui, de le révéler un petit peu plus à tout cela, à tout ce monde. L'universalisme de Jésus-Christ. Peut-être aussi nous faut-il aborder la question du désir. Sommes-nous porteurs du désir d'annoncer le Christ ? Nous aimons entendre parler de Jésus-Christ le samedi matin. En tout cas, j'apprécie le temps d'école du sabbat. Merci à Daniel pour ce matin, c'était très bien. Mais en dehors de ces temps-là, est-ce que nous aimons parler de Jésus-Christ à ceux et celles qui se trouvent sur notre lieu de travail, à l'école, au lycée, à la fac, bref, dans tout ce qui n'est pas l'Église. Et c'est là que nous pouvons, malheureusement aussi, nous poser quelques questions. Je me souviens de cette parole qui m'avait marqué, encore une fois, d'une membre de l'Église d'Angers. Voilà que cette sœur, Arlette, venait d'avoir eu, non pas elle, mais sa belle-fille, une petite fille. Elle était donc grand-mère pour la première fois. Et là, quelle réaction extraordinaire, peut-être même surprenante. Elle allait dans les halls de la maternité dire à toutes les personnes qu'elle rencontrait « Je suis grand-mère, je suis grand-mère, je suis grand-mère ». Je ne sais pas si Thérèse a réagi comme ça, non ? Thérèse est grand-mère depuis une semaine, un petit peu plus maintenant. Cette histoire m'apparaît intéressante pour souligner le désir que nous devrions avoir, un peu comme cette Arlette-là, de dire qui est Jésus-Christ. Et pour cela, peut-être nous faut-il être séduits par Jésus-Christ. Aimons-nous Jésus-Christ ? Sommes-nous fascinés par cette personne, au point que nous ne pouvons nous empêcher de dire aux autres qui il est ? C'est là finalement le secret. Vous savez, Jésus-Christ est une personne qui fascine l'extérieur. Je me souviens d'un micro-trottoir qui avait eu lieu à l'époque, en 2000, donc, de la campagne d'évangélisation Regard 2000 avec Thierry Lenoir, vous vous en souvenez probablement. Des personnes étaient interrogées, dans les rues de Paris d'ailleurs, je crois, et on leur demandait « Jésus-Christ, pour vous, c'est quoi ?» Et on est surpris de voir que toutes les réponses étaient positives. Passion, amour, sacrifice, intelligence, bonté, humilité, rien de négatif. C'est intéressant de voir combien il y a possibilité d'être conquis, séduit par ce personnage. L'appétit vient en mangeant, dit-on, et c'est vrai. Probablement qu'avec le Christ, c'est pareil. Le désir du Christ viendra en consommant le Christ. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire quelque part dans quelques instants. Alors attention, comprenez-moi bien. Nous n'allons pas consommer les espèces eucharistiques et en cela la chair de Jésus-Christ, non. Mais quelque part, à travers ce pain que nous allons manger, à travers ce jus de fruits que nous allons boire, nous allons nous rapprocher du corps et du sang de Jésus-Christ et nous allons signifier l'ingestion de tout cela, symboliquement. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le symbolisme théologique de cette scène, c'est plutôt l'effet psychologique de cette scène. Au moment où nous allons manger, au moment où nous allons boire, nous allons penser à Jésus-Christ. Nous allons peut-être imaginer sa voix, sa couleur de peau, ses cheveux, ses yeux. Nous allons peut-être imaginer une des scènes rapportées dans les évangiles avec ses disciples. Nous allons entretenir à ce moment-là, le temps d'une scène, un rapport, un moment, une relation particulière avec le Christ. Et que va-t-il se dégager de cette contemplation ? Une fascination, une séduction. Et je suis convaincu que si la possibilité nous était donnée juste après ce moment-là de dire à celui qui est à l'extérieur qui est Jésus, nous le ferions plus facilement que si nous n'avions pas vécu, expérimenté la scène. L'appétit vient en mangeant. Mangeons le Christ. Vous connaissez le principe de la publicité. On vous bassine d'informations pas forcément bonnes, j'en conviens. Mais ce n'est pas pour rien. Si vous avez des sociétés qui sont prêtes à payer des sommes folles pour avoir 30 secondes de parution régulière au moment où le plus grand nombre regarde la télévision, c'est qu'il y a là un effet. Plus on regarde, plus on est influencé, pour le bien comme pour le mal. Et plus nous nous retrouverons tous et nous n'y manquons pas, dans les centres commerciaux, pour acheter le produit que l'on nous a proposé. Je ne dis pas que c'est la même chose avec le Christ, ne réduisons pas le Christ à un produit, mais j'en reviens plutôt à cette maxime connue de tous, l'appétit vient en mangeant. Consommons le Christ, retrouvons le Christ, pensons au Christ, prions le Christ, étudions le Christ, et alors nous serons porteurs, nous retrouverons le désir du Christ, et naturellement, nous parlerons du Christ. Il y aurait bien des choses à dire, mais le temps passe. Et nous conclurons maintenant, pour ne pas trop perdre de temps. Mais nous aborderons probablement cet après-midi, car il y a réunion d'édification pour les jeunes et pour tous. Le rôle, la fonction prophétique de Jean le Baptiste, et comment aujourd'hui nous approprier tout cela pour parler du Christ et hâter son avènement. C'est là ma prière pour chacun. Que Dieu nous bénisse. Amen.